Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver si vous nous rejoignez seulement à l'instant pour l'émission et merci si vous êtes là depuis le début, depuis notre prise d'antenne. À suivre, nos invités, la comédienne Lou Delage à l'affiche d'un film franco-italien, Tu choisiras la vie, signé Stéphane Frey. C'est son premier film, il sera aussi avec nous. Bonjour Stéphanie Loire.
Bonjour Philippe Vandel.
Bonjour Héloïse Gouard.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Et bonjour Jean-Luc Lemoine.
Bonjour mon maître.
Jean-Luc, c'est pas votre première non plus. Tous les jours, vous intéressez à un programme pour nous. C'est votre session de rattrapage. Et aujourd'hui, tel un cuisinier des cœurs, vous aviez envie de célébrer la subtile alliance entre la nourriture et l'amour.
Oui, Philippe, en effet. Je ne sais pas ce que j'avais hier, mais j'étais gay comme un Italien quand il sait qu'il aura de l'amour et du vin. Donc je me suis replongé dans la telenovela qui allie avec bonheur l'amour et les matières grasses. L'ombre du mensonge sur IDFM.
Ah, oui. Oh là, quel bonheur.
Ah, on est content.
Ouais, j'en ai déjà parlé dans cette émission, mais comme aujourd'hui il y a Héloïse Gouard qui d'habitude fait la maline avec ses séries à ne pas manquer, moi je voulais lui montrer ce que c'était une série qu'on pouvait manquer, c'est pas grave. Hein. Alors pour ceux qui auraient raté le premier épisode, un petit récap. Hein. Previously on L'ombre du mensonge. Valdiren, qui vit avec sa mère, avait quitté Carlito pour une raison bien simple.
Tu es en train de me larguer simplement parce que le type est plus riche ?
Non, aussi parce qu'il me paye des frites. Beaucoup de frites avec des steaks, tu comprends ?
Voilà, vous remettez ?
Oui.
Eh bah, j'ai voulu voir la suite, hein, car on n'a pas vu pareille qualité de dialogue depuis bien longtemps.
Oui. Oh Félix, n'alimente pas le feu, je sais que la mèche est déjà allumée, mais évite de souffler dessus.
Alors, si je peux me permettre, c'est pas très gênant de souffler sur les mèches. Oui. Sur les braises, oui, mais sur les mèches, normalement, t'es tranquille. Je vous dis, une très belle qualité de dialogue. Notamment quand Valdiren découvre que Carlito, qu'elle a largué pour manger des frites, je vous le rappelle, sort avec une jolie blonde.
Oh, mais horrible cette épouvantail toute décolorée.
Oh, perdu, je me teins pas les cheveux.
Ma chérie, je connais les teintures. Je m'y connais en coiffure, je m'y connais en cheveux, je m'y connais en racines. Et toi, tu te teins la tignasse parce que je vois le cuticule de tes pointes. Vu.
Toi, tu te tiens la tignasse, car je vois le cuticule de tes pointes. Une réplique qui nous rappelle une chose très importante quand tu es dialoguiste, la drogue, c'est mal.
Oui. Hein,
c'est beurk, c'est caca. Non mais j'exagère à peine, c'est impossible d'écrire ce genre de dialogue si t'es dans ton état normal,
évidemment.
Tu sais que t'es en train de me briser le cœur, pouilleux, et dans peu de temps, mon cœur sera plus qu'un gros tas de sang.
Tu m'as déjà perforé le cœur, ok? Comme les petits cœurs de poulet là qu'on vend en brochette à la rôtisserie.
Non.
Oui. Des petits cœurs de poulet.
Ils sont super forts sur les métaphores culinaires.
Ouais, exactement. Ils font une fixette dans cette série. Et toujours sur les métaphores alimentaires. Vous avez raison, Stéphanie. Là, par exemple, Valdiren est très mécontente. Car sa mère a un amant et elle a peur que celui-ci prenne sa maman pour un beefsteak. Ne me demandez pas pourquoi.
Ah non, mademoiselle, je ne suis certainement pas qu'un pauvre petit beefsteak pour lui.
T'es pas un beefsteak, c'est lui, il est très malin. Jamais je n'ai vu une personne mentir à autant de gens. Et toi, t'es une omelette baveuse qui s'écrase quand il arrive.
Qu'est-ce que c'est ?
Alors, on va faire un petit quiz. On va s'amuser deux secondes, parce que j'avoue, on se perd un peu dans l'intrigue.
Ouais.
Et aussi pour voir si vous suivez. D'après vous, au fond d'elle, Valdiren pense que sa mère est un beefsteak ou une omelette baveuse ?
Une omelette baveuse.
Une omelette baveuse.
Qui fuit ? Une omelette baveuse.
Vous êtes sûr ?
Oui. Bien sûr.
On vérifie.
Et puis je ne comprends plus rien au bout du compte. Je suis un beefsteak ou une omelette ?
T'es une sardine grillée, maman. T'es une sardine grillée.
Une sardine grillée ?
Grillée qui écarte les cuisses dès qu'il arrive.
Raté. C'était une sardine grillée. Et excellente métaphore parce que c'est vrai que quand tu cherches un animal qui peut écarter les cuisses, tu penses tout de suite à la sardine.
Grillée.
Moi, je vous le dis, ils sont en roue libre totale, les doubleurs. C'est censé être des Brésiliens, mais quand tu les écoutes, parfois, tu te demandes si c'est pas la suite de La vérité si je mens.
Qu'est-ce que c'est que cet avocat de merde que tu nous as trouvé, Tété ?
Oh, une seconde, gentille, ne sois pas vulgaire. Je ne veux pas de gros mots dans ma maison. Aïe, aïe, aïe.
Aïe, aïe, aïe. Là, tout de suite, on entend Rio, Copacabana. Je crois que c'est vraiment la doubleuse de la mère qui est partie le plus loin. Elle en fait absolument pas des caisses. Elle est juste comme il faut.
Maman, tu peux descendre, s'il te plaît ? J'ai besoin de te parler.
Oh, va dire. Mon Dieu, quel manque d'éducation, chérie! Est-ce que tu es obligée d'appeler ta mère comme ça? Enfin, Valdiren, en criant comme une dingue!
Elle surjoue légèrement, mais franchement, ça se voit pas. Hein, à sa décharge, on lui fait déjouer. Enfin, on lui fait jouer des lignes, mais qui sont complètement impossibles à jouer. Par exemple, là, elle dit adieu à son amant qui part en prison pour bigamie. Essayez de jouer la tristesse avec ce texte.
Je ne sais pas ce que je vais pouvoir faire sans toi. Je ne sais pas. Je viendrai t'apporter des hot dogs rien que pour toi dans cette prison. Je te jure, je t'en apporterai.
Il pense qu'il a bouffé dans cette série.
C'est extraordinaire.
Et le pire, je vous promets que c'est vrai, quand tu binges cette série pendant des heures, au bout d'un moment, tu sais plus quelle expression existe ou pas. C'est du lavage de cerveau en telenovela.
Attends, t'es idiote ou quoi ?
Non,
Valérie. Non, 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 non. Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude, mais ce n'est pas la question. L'idiote ici, c'est plutôt toi. Moi, je suis l'intelligence personnifiée et je vais te poser la question. Valérie, ce serait pas toi l'idiote?
Je suis l'intelligence perforée, c'est toi l'idiote.
Je suis l'intelligence perforée, ça existe ou pas?
Non.
Allez,
peut-être.
J'ai déjà créé assez de confusion mentale chez vous, je vous laisse là-dessus.
Mais c'est extraordinaire ce feuilleton, cette telenovela. Merci beaucoup, Jean-Luc Lemoine. À demain. Non. Pas demain. D'abord, tout à l'heure, de 16h à 18h, vous serez avec Stéphane Bern dans Historiquement Vôtre. Le 3 février, à Bigloula, c'est en Corse. Et donc là, je dis Jean-Luc, bravo, à demain.
À demain.
Stéphanie Loire, le programme de votre indispensable ce matin.
Ce matin, je vous présente un album pour lequel j'ai eu un coup de cœur, un album de rock vivifiant des Italiens de Maneskin qui va vous faire, Philippe, l'effet d'une cure de ginseng, vous allez voir.
Et puis, Aloïs Goua, alors vous, une vraie bonne série.
Bah oui, désolé Jean-Luc, une série qu'il ne faut vraiment pas manquer. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé, c'est la série très attendue mais surtout très réussie de Xavier Dolan qui débarque cette semaine sur Canal+.
Dans un instant, la comédienne Lou Delage avec nous dans ce studio avec Stéphane Fraisse, réalisateur de son premier film Tu choisiras la vie, mais d'abord musique avec Miley Cyrus sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média.
9h-11h.
Philippe Vandel.
Bonjour Lou Delage.
Bonjour.
Comédienne, on vous a vu dans Japlou, dans Respire, dans Les Innocentes, dans Boîte Noire, dans Le Bal des Folles. Votre actu, c'est ce film, Tu choisiras la vie. Il sort demain avec Riccardo Scarmaccio, film de Stéphane Fraisse, qui est avec nous également. Bonjour. Bonjour. Il sort aujourd'hui.
Mais oui.
Vous savez pourquoi j'ai écrit qu'il sort demain?
Mais parce que je me suis dit merde, on est mardi.
Et je veux dire pourquoi. Non.
Parce que j'ai mal dormi.
Non, parce que j'ai écrit hier et donc j'ai écrit qu'il sort demain.
Non, réveillez-moi, j'ai pas peur réfléchi. D'un coup, mais qu'est-ce qui s'est passé?
Le film qui sort aujourd'hui avec Riccardo Scarmaccio. Bonjour Stéphane Fraisse, comédien. Vous étiez César du meilleur espoir masculin en 89. Mmh. C'était le film Chouan de Philippe de Broca. Vous avez tourné avec Varda, Claude Miller, Spielberg, Clint Eastwood, encore François Ozon. Il y a pire. Et c'est votre premier long métrage en tant que réalisateur. Très personnel, car vous l'avez porté 10 ans. Il y a, si j'ai bien tout compris, une grande part de vous. Que raconte ce film? Que raconte Tu choisiras la vie?
Mais déjà, il y a toujours une part de soi quand on fait son premier film. Voilà, donc en fait, mais j'ai essayé de prendre la distance qu'il fallait pour en faire quand même un film et pas trop me regarder. C'est l'histoire d'une jeune fille qui vient d'un milieu orthodoxe juif et qui...
Ultra-orthodoxe.
Ouais, enfin, orthodoxe déjà suffit pour dire qu'elle est déjà dans un monde extrêmement clos.
Ouais. Et, enfin, elle est obligée de mettre des collants en été, c'est les ultras.
Ouais, non, mais même les très orthodoxes. Voilà. On va pas jouer sur les mots. En tout cas, elle est vraiment en marge dans une communauté qui est extrêmement où le dogmatisme est important. Voilà. Et puis, elle est à un moment de sa vie où elle a 25 ans et elle est en perte de sens à ce qu'elle fait. Elle perd la foi et elle cherche à s'arracher. C'est très difficile de s'arracher de ce monde. Elle accompagne sa famille en Italie, dans l'Italie du Sud, où chaque année, ces gens-là vont chercher un citron qu'on appelle le cedra et qui sert à une fête sacrée. Et dans ce voyage, qui peut être le dernier voyage avant de s'arracher à ce monde, elle fait la connaissance d'un homme, l'agriculteur qui chaque année reçoit ses familles, de génération en génération d'ailleurs, et qui lui aussi est un homme qui est dans un moment compliqué de sa vie, et c'est la rencontre de deux êtres égarés, empêchés, qui vont tenter de s'arracher à la fatalité de leur héritage, je dirais.
On écoute la bande-annonce.
C'est bon d'être de retour chez toi, Elio.
Entrez.
Non, je peux pas. Je peux pas entrer chez un homme qui n'est pas mon mari. Enfin, je suis pas mariée.
C'était pas à moi de gérer cette terre. Il faut être un peu crétin.
Crétin, non. Juste esclave. Je me sens si loin d'eux. Chaque prière me brûle la bouche.
À quoi tu joues, Esther? J'étais où?
Toi, l'éternel que t'es mon Dieu. Donne-moi la force de te quitter, je t'en prie. Ma vie est ailleurs.
Lou Delage, vous êtes donc Esther, votre personnage est la fille d'un rabbin orthodoxe. Comment vous la décririez, cette Esther ?
Esther, c'est une jeune fille, comme un peu dit Stéphane, qui arrive à un moment de sa vie où elle va remettre en question tout son héritage familial, tout ce sur quoi elle a grandi, toutes les croyances sur lesquelles on l'a construite, et qui, comme beaucoup d'adolescents d'ailleurs, ou de jeunes adultes, à un moment, ont besoin de passer par une destruction de ce qu'on nous propose, de ce qu'on nous enseigne, pour venir se rencontrer. Sauf qu'elle fait partie d'un milieu où cette révolte-là est un peu plus complexe à mettre en place.
Et en même temps, cette révolte-là paraît légitime, puisque par exemple, on lui interdit l'usage de l'informatique.
On lui interdit tout ce qui va la rattacher à notre société, à nous, telle qu'on la connaît. pour se protéger.
Alors qu'en tant que spectateur, j'ai vu le film, on se dit, mais c'est formidable ce qui arrive à ce type. Il cultive du cédrat comme faisait son père, comme faisait son arrière-grand-père. C'est ce dont on rêve tous, plutôt que des légumes cultivés sous serre et vendus sous plastique.
Oui, sauf que lui, il avait un autre destin qui l'attendait. Ouais. C'est un artiste. Et si son père n'était pas mort trop tôt, il aurait eu une autre vie. Voilà.
C'est tout l'enjeu de ce film. Comment a-t-il été construit? Qu'a-t-il de personnel? Parce qu'il est très discret, Stéphane Fraisse. Il nous raconte ça juste après une courte pause.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de la comédienne Lou Delage à l'affiche de ce film Tu choisiras la vie. Il sort aujourd'hui, mercredi. Film réalisé par Stéphane Fraisse et son premier film, 10 ans. Pour porter ce projet, pour le réaliser, pour le mettre en place, pour le monter. Pourquoi ce milieu juif ultra-orthodoxe, vous le connaissez bien? Si je suis bien informé, en préparant cet entretien, j'ai découvert, ce que je ne savais pas sur vous, qu'après la séparation de vos parents, vous aviez 12 ans, votre maman s'est tournée vers la religion.
Mmh. Oui, oui, et de manière totale. Moi, je n'ai jamais rien reçu de tout ça. Je n'ai pas eu de tradition, je n'ai pas eu de rituel. Mmh. Voilà, j'ai grandi avec un sapin de Noël, moi, ouais. À Noël. Donc, en fait, quand le père de mon père est mort en Caen, à ses yeux, une disqualification totale de Dieu et de tout ce qui pouvait toucher à la religion. Et de l'autre côté, voilà, ma mère bascule dans quelque chose de si intense que je découvre, je passe de rien à un monde d'orthodoxie qui est aussi exotique que déconcertant, déstabilisant. Et puis voilà, au fur et à mesure, je grandis écartelé entre deux visions totalement différentes du monde.
À la différence du personnage d'Esther joué par Lou Delage, votre maman a choisi, alors que Esther, on lui a imposé.
Oui, oui, non, le film, c'est pas l'histoire de ma mère.
Exactement,
du tout,
hein. Je le précise bien, c'est non, très important de comprendre.
Elle est un déclencheur, parce qu'en fait, elle m'a inspiré une réflexion sur qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous a transmis. Qu'est-ce qui reste?
Mais il y a quand même une part de vous dans le personnage
bien
de
sûr.
Lou. Pourquoi vous avez choisi une fille exprès pour une mise à distance?
Il y a deux questions, je vais y répondre. Mais d'abord, il y a une part de moi dans le personnage de Lou et dans le personnage d'Elio aussi,
c'est
qui
vrai.
Est joué par Scamarcio. Parce que justement, je suis écartelé entre ces deux mondes. Une fille, oui, mais alors c'est parce que je voulais aussi, en même temps, raconter la situation de la femme dans ces mondes orthodoxes qui sont où l'archaïsme laisse encore à la femme une place extrêmement réduite aux tâches les plus élémentaires. Enfin, il y a une
description absolument saisissante. C'est les femmes qui expliquent ce que doit faire une femme au moment, pardon de dire les choses, où elle a ses règles.
Oui.
Et on a l'impression.
Il y a un code. Tout est très codé.
On a l'impression qu'on est des siècles en arrière.
Voilà, on respecte une loi qui, pour nous aujourd'hui, nous semble extrêmement dépassée. Et elle étouffe, cette jeune femme. Moi, j'ai rencontré des gens comme elle dans des associations et qui sont totalement perdus quand ils quittent ce monde. Parce que le monde laïque ne les attend pas et parce qu'eux ne connaissent rien non plus. Ils n'ont rien appris de ce monde-là. Donc en fait, c'est des êtres totalement laissés eux-mêmes et perdus. Voilà, ça pose vraiment la question de savoir qu'est-ce qu'on porte en nous de ce qu'on a reçu et comment le transformer sans tout jeter, sans tout balancer à la poubelle.
Avant qu'elle jette tout, on va entendre un extrait. Esther est dans une voiture. Et elle exprime ce qu'elle ressent justement avec ce jeune producteur de Cédra qui croit, qui pense la comprendre. On vous écoute.
J'admire la rigueur de votre monde.
Qu'est-ce que vous connaissez de mon monde? Croyez avoir tout compris parce que vous nous voyez 15 jours par an? Vous n'avez aucune idée de ce que c'est mon monde. De répéter tous les matins, garde-toi de séduire et de te prosterner devant d'autres dieux. La colère de l'Éternel s'enflammerait contre toi. Mais en quoi je mérite sa colère? Je passe mes journées à Aix-les-Bains, à fabriquer des perruques, le bus, l'atelier, des prières toute la journée. Et puis encore le bus, le soir la famille et encore des prières. Et ça, tous les jours de la semaine jusqu'à Shabbat, où je quitte la maison juste pour aller à la synagogue. C'est ça, vous trouvez admirable? Vous savez pas ce que ça fait d'être la risée des autres filles parce que vous portez des collants en plein mois d'août? De pas avoir internet, de jamais être allée en boîte de nuit, ni même dans un bar le soir? Vous savez pas ce que ça fait de baisser les yeux devant un homme qui n'est pas de votre famille?
Lou Delage, qu'est-ce qui vous a séduite dans ce projet? Vous n'êtes absolument pas religieuse, vous ne connaissiez absolument pas ce milieu.
Non, pas du tout. Moi, je connais, mais ça fait partie des choses qui m'ont séduite. Parce que moi, j'adore mon métier pour ça. C'est qu'il me permet de voguer dans des univers et avec des gens qui vont m'expliquer et me raconter des mondes et des milieux que je ne connais pas. Et là, je savais que Stéphane était très investi, très passionné par son sujet. Et donc, travailler avec des gens passionnés, c'est aussi beaucoup plus agréable. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des gens qui ne le sont pas tant que ça.
Ah bon ?
Ça existe, voilà. Après, l'intensité diffère.
J'ignorais. Je pensais que quand on met 10 ans à faire un film ou 3 ans, on est passionné par son sujet.
On le transmet plus ou moins sa passion.
Vous lui avez fait, comment vous lui avez demandé de préparer ce rôle? Vous lui avez donné des lectures?
D'abord, je vais la faire rougir, mais c'est ce qui est formidable quand on fait son premier film, je suis un jeune réalisateur,
c'est vrai.
C'est d'avoir quelqu'un d'aussi virtuose. Elle traduit. D'abord, elle a travaillé. Ce qu'un acteur déjà ne fait pas toujours. Elle a approché ce monde, elle a fait son travail, sa cuisine, pour arriver déjà chargée de l'histoire. Et elle est extrêmement à l'écoute, elle est extrêmement attentive à, d'abord à ce qu'il y a autour d'elle. Et il y a eu une espèce d'évidence dans le travail ensemble, parce qu'elle sait convertir très rapidement, comme une virtuose, elle s'est passée d'un sentiment à un autre. C'est pour ça que ce personnage est lumineux, est chargé est vulnérable et en même temps chargé d'une force inouïe. Et c'est rare d'avoir cette chance.
Quelle lecture, quel documentaire vous avez regardé? Comment vous avez préparé le rôle, Lou Delage?
Alors Stéphane m'avait donné une petite liste et de livres et de documentaires et de films. Et il y avait aussi Pierre-Henri Salfati sur le tournage.
Ouais. Il faut raconter qui il est parce qu'il est extraordinaire.
Ouais, et qui est un érudit.
Un exégète de la Bible. Mais pas que. C'est un homme, c'est un cinéaste au départ. Enfin, il est splitté entre un monde, notre monde, celui de... Voilà, il fait des documentaires, il a fait des documentaires sur Redford, sur Gainsbourg. Et puis à côté de ça, c'est un des grands penseurs de la Bible.
C'est pour ça que moi j'aime bien dire un érudit pour Pierre-Henri. Parce qu'il y a peu de gens comme ça en face de qui on s'assoit et qui nous abreuvent de connaissances.
Je ne vais pas raconter la fin, mais ça tombe bien puisque la fin, je ne la connais pas. C'est une fin ouverte. Pourquoi ce choix?
Vous venez de raconter la fin.
Bah non, on ne sait pas ce qui se passe. Je ne peux rien dire.
Non, il ne faut pas le raconter. Mais de toute façon, en fait, le film pose question. Et je pense que la meilleure réponse à une question, c'est encore de reposer question. C'est ça que dit le film. C'est-à-dire qu'il y a un très joli proverbe italien qui dit « Si chiude una porta, si apre un portone ». Une porte se ferme. Et aussitôt derrière, une plus grande porte s'ouvre. Voilà, c'est ça que je voulais faire en fait. C'était permettre aux gens d'ouvrir cette porte avec moi et de se retrouver face à la question de leur propre histoire, de leur propre héritage. Et ensuite de voguer vers, comme dit Lou, vers eux-mêmes, vers plus loin.
Vous parlez italien couramment ?
Oui.
Ça ne pouvait pas mieux tomber. On parle de Maneskin, on parle de musique. C'est un groupe italien. À tout de suite avec Stéphanie Loire dans Culture Média. Avec Stéphanie Loire, Lou Delage, Stéphane Fraisse. À tout de suite.
9h-11h,
Europe 1, Culture Média,
Philippe Vandel.
En compagnie de Lou Delage à l'affiche de Tu choisiras la vie, c'est le premier film de Stéphane Fraisse qui est aussi avec nous dans ce studio, ça sort aujourd'hui. C'est un film entre plusieurs cultures, entre plusieurs milieux, j'allais presque dire entre plusieurs époques. Comment vous avez choisi la musique?
D'abord, je me suis surpris à écrire souvent en musique. Et j'ai souvent été accompagné par un chanteur qu'un jour une copine russe m'avait fait entendre, un géorgien qui s'appelle Nias Diazamidze. Et sa voix, d'ailleurs, qui a quelque chose d'ailleurs de Paolo Conte, je trouve, m'a envoûté. Il y avait quelque chose. Et comme je ne comprends pas le géorgien, j'écrivais sans comprendre, mais c'était une caresse, cette voix. Et à force de l'écouter, quand je suis arrivé au moment de faire le film, je me suis dit, mais je ne peux pas l'abandonner. Donc j'ai fait le forting pour l'avoir sur le film. Et la fin, c'est la même chose. C'est un auteur merveilleux, c'est un poète italien, Lucio Dalla, qui d'ailleurs, quand on comprend l'italien, finalement ponctue le film avec des mots qui racontent d'une certaine manière le destin d'Elio. Donc j'en dis pas plus.
Tout petit mot, vous êtes fan de Formule 1?
Ah oui, c'est drôle, c'est sûr que vous allez me poser la question. Oui,
mais
c'est
évidemment.
Vrai.
Oui. Vous avez fait exprès ou pas?
Oui, je l'ai fait exprès.
Et Elio De Angelis, qui était un immense pilote, regardé, qui est mort en 86, qui était très
conditions
très beau.
Et il avait un nom tellement merveilleux, Elio De Angelis. D'abord, Elio, c'est un nom biblique déjà. Ouais. De Angelis, je trouve que c'est incroyable. Donc je me suis dit, mais j'ai oublié quand même que le film était aussi en Italie. Oui. Les gens me disaient, mais quel rapport avec les coureurs automobiles? Je dis, aucun.
Évidemment.
Et là, je me disais peut-être, bon, mais pour le reste du monde, ça passe quand même.
Alain Prost. J'ai dit le film avec Alain Prost. Maneskin, ça vous parle?
ça va encore mieux me parler dans quelques instants.
Bientôt,
mais évidemment, votre film se déroule dans les Pouilles, c'est donc en Italie. Et justement, Stéphanie Loire, vous nous parlez du nouvel album des Italiens. C'est un peu vos chouchous italiens,
oui,
Maneskin. C'est pas votre chouchou. D'abord, bonjour.
Bonjour,
et ensuite...
bonjour Lou Delage, bonjour Stéphane Fraisse, bonjour à tous.
Alors, je vous écoute. Moi, je connais Maneskin, je les connaissais pas. Je les ai découverts avec un concours.
Mais, ouais, exactement, Maneskin, c'est le groupe de rock italien qui a remporté le concours qui peut sembler encore ringard et dépassé pour certains, celui de l'Eurovision. Alors souvenez-vous, les Italiens étaient devant la France, incarnée par Barbara Pravi. On était en 2021, une victoire décrochée grâce à ce titre fiévreux intitulé Zitti e Buoni. On a la chance d'avoir Stéphane Fraisse qui parle couramment italien. Zitti e Buoni, ça signifie...
Zitti, taisez-vous.
Voilà.
Et buoni, et soyez bon.
Et tenez-vous correctement.
Ah oui,
voilà.
D'accord.
C'est ce que je vais vous demander d'ailleurs pendant cette chronique, s'il vous plaît.
Bah, je me suis pas déshabillé, que je sache quand même.
Alors, pour vous...
L'accueil des invités ici, remarquable. Ouais, hein, vraiment,
c'est
on,
sport,
est bien,
hein.
On est bien reçus. Hein.
Ouais, ouais.
Pour vous rafraîchir la mémoire, il y avait eu un scandale autour de
mais
ce groupe-là.
Tellement.
Pendant la soirée de l'Eurovision, une brève séquence avec Damiano David, qui est le chanteur du groupe, qui avait beaucoup fait parler sur les réseaux sociaux. On le voyait se pencher sur une table pendant que l'un de ses acolytes lui semblait lui donner des petits coups de coude pour lui faire signe de la jouer discret, rapport aux caméras du monde entier qui étaient braquées sur lui. Et de nombreux internautes ont déduit que Damiano David était en train de s'envoyer un autoroute du soleil dans le nez, un grand rail de coke, peinard en direct sur le plateau de l'Eurovision devant toutes les caméras du monde entier. Polémique, scandale, injustice, indignement général. Et puis, accusation fermement démentie par le chanteur de Maneskin qui affirmait avoir simplement baissé les yeux parce que le guitariste avait cassé un verre.
Bien sûr.
Bah, non, mais
tu casses un verre, tu le sniffes après, tout le monde.
Bah, ouais. Au moins, tu baisses les yeux.
Ouais. Maneskin a par la suite pris la parole pour affirmer d'une part que le groupe était contre la drogue, et le chanteur s'est soumis à un test anti-drogue, dans un dépistage en Italie, qui est revenu officiellement, en tout cas, négatif. Fin de l'histoire. N'empêche.
Mais c'est comme les cyclistes italiens.
Voilà. N'empêche que la polémique a non seulement fait passer l'Eurovision du kitsch au cool, et ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, et puis surtout, Maneskin, ça a permis à ce groupe de se faire un nom sur la scène internationale. Et ça tombe bien, puisque ce dont je vais vous parler, c'est le cœur du métier de l'activité de ce groupe, c'est de sa musique. Parce que cette musique, elle est fichtrement bonne et vivifiante. Ce groupe, il se forme à Rome en 2016, sur les bancs du lycée, c'est une histoire de copains. Il commence par se produire dans les rues de Rome, avant de s'illustrer en 2017, dans une émission X Factor Italie, ils finiront d'ailleurs second au classement de cette émission. Vivifiant.
Ouais, j'adore moi.
C'est autre chose que la mandoline à Venise, hein.
Et
ça fait plaisir.
En effet, on en est loin. Ouais. Maneskin, c'est le premier groupe de rock italien à avoir conquis le monde après son passage à l'Eurovision. Il vient tout juste de sortir un album intitulé Rush, produit par Max Martin, qui est une sorte de machine à tube. Avec ce disque, le groupe s'inspire du côté punk et grunge des années 90, ambiance Radiohead, mais celui de Rage Against the Machine. D'ailleurs, ils se sont carrément offert une collaboration avec Tom Morello, qui est le guitariste de Rage Against the Machine, sur ce morceau Gossip. C'est vrai que Stéphane Fraisse faisait une référence à Nickelback.
Ouais, j'aime
beaucoup. Et c'est vrai qu'on est dans cet univers musical. Maneskin, c'est aussi une attitude, un look très 70s, diablement sexy, comme disait ma grand-mère.
Mmh.
Ils sont quatre, ils dégagent cette énergie enivrante. Et puis aussi, on aime les mélodies qui sont là. Hein. Ils ont séduit le monde. Enfin, moi, j'avoue, je suis totalement amoureuse de ce groupe. Des chiffres viennent confirmer cet engouement. Ils cumulent 24 disques de platine, plus de 3,5 milliards de streams sur les plateformes, c'est beaucoup. Et ils ont squinté pendant 2 mois le top 10 mondial. Sur Spotify, ils détrônent en nombre d'écoutes mensuelles les Beatles et Led Zeppelin.
Ah ouais, mais Led Zeppelin, ils n'ont plus rien sorti depuis...
Et les Beatles, depuis un moment aussi, il faut le dire.
Moi, j'attends la reformation pour me décider.
Ouais.
Consécration, ils ont même assuré la première partie des Stones sur scène. Et quand on les entend jouer, on comprend pourquoi. I'm about to make you feel... Voilà, pour les inspirations aussi, un petit peu, ça sonne un peu comme du White Stripes.
Ouais, exactement.
On y est. Bon, voilà, ils chantent aussi parfois dans leur langue maternelle. Je pourrais vous faire écouter tout l'album, une chanson en italien, mais peut-être que ce serait trop long, peut-être que je perdrais mon job, alors j'arrête.
Moi, je vais bien la traduire avec vous.
Ouais.
Je la traduis en la chantant.
Vous en avez une en italien? C'était un teaser ou pas du tout? Vous
non,
avez un titre en italien?
La fine.
Alors là, alors encore une fois, là, ça on m'entend?
Ouais. Ouais.
Il y a un mélange de Nickelback et d'Adriano Celentano.
Ouais. Ouais, qui est un peu le Johnny Hallyday italien.
Ouais.
Voilà, bah c'était l'album Rush de Maneskin que je vous invite vivement à découvrir.
Merci beaucoup Stéphanie Loire, qu'on retrouve sur Europe aux commandes de l'émission Musique. C'est les samedis, c'est le dimanche de 16h à 17h. Merci beaucoup. Je vais pas dire merci en italien, j'aurai la honte avec mon accent. Dans un instant, on parle série avec notre deuxième indispensable, c'est Louise Goua. À tout de suite sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Lou Delage à l'affiche de ce film qui sort aujourd'hui, Tu choisiras la vie. Film signé Stéphane Fraisse, qui est notre invité, qui était notre invité, parce que vous devez nous quitter,
mort, hein.
Mais pour une bonne cause.
Oui, je vais présenter la fin de la première séance, je vais retrouver le public.
D'accord.
Moment exceptionnel.
Vous êtes comment? Parce que le mercredi matin, on a les chiffres.
Bah, je suis très heureux, très excité et en même temps assez serein parce que j'ai fait un peu le tour du monde avec ce film depuis 3 mois et j'ai échangé tellement de choses. Ce public m'a déjà donné tellement d'émotions que je suis chargé, je suis bien. Voilà, je suis bien. Je suis heureux, quoi.
Formidable. On était heureux que vous soyez ici, d'avoir fait cette entorse à votre agenda de ministre, de premier réalisateur. Merci beaucoup Stéphane Fraisse, à très bientôt.
Merci à vous tous, merci.
À très bientôt. On va parler de séries avec vous, Héloïse Goua. Rebonjour.
Rebonjour Philippe. Bonjour.
Et on va partir. Salut Stéphane. On va partir au Québec puisque vous parlez de la toute première série du réalisateur Xavier Dolan. C'est une série plutôt sombre.
Cette musique inquiétante que vous entendez, alors déjà, elle est signée par le grand Hans Zimmer et c'est celle du générique de la série. Ça vous donne une idée de l'ambiance pas très solaire de ce thriller psychologique. Thriller qui s'intitule « La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé ». Il s'agit aussi d'un drame dans lequel les secrets et les mensonges ont brisé toute une famille, toute une fratrie. Vous le disiez, Philippe, c'est la toute première série et peut-être la dernière parce que Xavier Dolan a annoncé sa retraite de réalisateur.
Ah bon ?
Oui, Xavier Dolan qu'on connaît notamment pour ses film Mommy est juste la fin du monde. Il l'a annoncé. Après, c'est peut-être juste une pause et on espère qu'il reviendra.
Non, je souris parce que ça fait un télescopage avec la réforme des retraites en ce moment. Le gars, il veut déjà partir à la retraite.
Mais retraite de réalisateur. Ouais. Parce que là, par exemple, dans cette série, il ne s'est pas contenté d'écrire et de réaliser. Il joue aussi l'un des personnages principaux. Il s'appelle Elliot. C'est le dernier de la fratrie Larouche. Il sort tout juste d'une cure de désintoxication. Alors physiquement, il ne s'est pas du tout mis à son avantage. Il a les cheveux rouges, des cicatrices absolument partout, un teint blafard, une peau très très abîmée. Mais son personnage est attachant parce qu'il est peut-être le plus innocent de cette famille dysfonctionnelle.
Comment tu te sens ce matin ?
Bien.
Bien.
Avec la mort de ma mère, ma famille est fragile. Ça fait remonter de vieilles affaires. Des choses, des gens qui appartiennent au passé.
Là, vous entendez, Philippe, la version doublée, mais comme d'habitude, je vous recommande de regarder en version originale, c'est-à-dire en québécois sous-titré.
Alors, on a envie de savoir, que s'est-il passé de si grave dans cette famille Larouche ?
Eh bien, quelque chose, un événement précis dont je ne peux évidemment pas vous parler, Philippe.
C'était bien la peine.
Ce que je peux vous dire, c'est le problème avec les thrillers, c'est que je ne peux vraiment pas vous en dire trop.
Non, mais ce qui est dingue, c'est que c'est vous qui m'avez écrit cette question, donc si vous ne pouvez pas y répondre, comment on va faire ? Comment on va s'en sortir ?
Eh bien, on va y arriver.
Qu'est-ce qui se
passe dans cette série ? Ce que je peux vous dire, c'est que dès le début, on voit une famille Larouche à deux doigts d'exploser, l'atmosphère et les silences sont très lourds, vous venez de l'entendre dans cet extrait. À sa mort, la mère de cette famille, qui est jouée par Anne Dorval, la chouchoute de Dolan, qui jouait dans Mommy, cette mère laisse derrière elle ses 4 enfants devenus adultes. Dans l'ordre, il y a Julien, Mireille, Bruno et Elliot. Alors tout de suite, on sent qu'il y a quelque chose de pas net du tout chez Julien. C'est l'aîné de la fratrie. C'est un homme instable qui fait des cauchemars. Il est hanté par des visions. Il pique des colères effrayantes. En fait, on comprend qu'il a sérieusement quelque chose à se reprocher. Écoutez par exemple comment il réagit lorsqu'il apprend que sa femme a demandé à sa sœur Mireille de venir en ville pour le décès de leur mère.
Enfin, mais qu'est-ce qui t'a pris, putain de merde ?
Non mais attends, bordel de merde ! Tu savais bien que ça arriverait, non ? Dans quel monde tu vis ?
Elle a rien à foutre ici. Surtout si c'est pour remuer la merde. Ressortir des vieilles histoires du passé qui ont rien à voir avec le présent.
Alors s'il réagit comme ça, c'est que ça fait 15 ans qu'il n'a pas vu sa sœur Mireille. Et en remontant le temps, on comprend qu'un terrible drame impliquant Mireille et Julien est survenu une nuit de 1991. Un drame qui à l'époque avait coupé Mireille de toute sa famille et qui continue de hanter toute la fratrie aujourd'hui.
Alors cette fois, j'espère que vous allez pouvoir répondre à ma question. Qui est ce fameux Laurier Gaudreau qui donne le titre à cette série?
Là, c'est d'accord, je vous réponds. 30 ans en arrière, les Gaudreau étaient les voisins de la famille Larouche. Laurier est l'un des fils. Ces deux familles étaient unies. Hein. Mimi avait même un peu le béguin pour Laurier. Sauf que depuis des années, Laurier Gaudreau n'a plus donné signe de vie dans ce petit village québécois. Et pour cause, lui aussi était impliqué dans le drame de 1991 en question. Le hic, comme l'indique le titre de la série, c'est que ce fameux Laurier se réveille. Il réapparaît soudainement à la mort de la mère Larouche pour une drôle de raison. Et c'est en fait lui qui menace de faire exploser la fratrie en dévoilant une vérité indicible.
On veut plus en entendre parler de ce qui s'est passé cette nuit-là, de toute cette putain d'histoire de merde, de Laurier Gaudreau. On veut plus en entendre parler, plus jamais.
Donc, à vous écouter, cette série est à la hauteur des attentes qu'elle suscite. Ça vous a vraiment, vraiment plu?
Absolument. Figurez-vous que je l'ai même trouvé encore meilleur que les films de Xavier Dolan. Le portrait de famille dépeint est bouleversant. Les acteurs incarnent à merveille les personnages au destin fracassé. Mais surtout, la construction de la série est très bien pensée. Dans chaque épisode, grâce au flashback, la vérité se dévoile couche par couche, tout doucement. Pour finalement mieux nous tromper. Je suis emballée par cette série. On pense dès le début avoir le fin mot de l'histoire, mais en fait on est très loin du compte. Et cette mosaïque temporelle qui nous balade de bout en bout, ça m'a fait penser au best-seller de Joël Dicker, La vérité sur l'affaire Harry Kéber. Si vous avez aimé ce livre, vous avez certainement passé une bonne nuit blanche avec cette série.
Il y a combien d'épisodes?
5 épisodes d'une heure, et c'est en cours de diffusion sur Canal+, le lundi à 21h. La série est déjà disponible sur MyCanal.
Merci beaucoup Héloïse Goua. Je demanderai dans quelques instants à Lou Delage si ça l'a tenté. C'est la dernière ligne droite de Culture Média. A tout de suite.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
En compagnie de Lou Delage, tu choisiras la vie. Ça sort aujourd'hui, mercredi. C'est le premier film de Stéphane Fraisse. Comment il était Stéphane Fraisse sur le tournage? Je pose la question parce que c'est pas un débutant, mais c'était son premier film, et pas vous. Lui, c'est son premier film en tant que réalisateur, et vous, votre premier film en tant que comédienne. Comment il était?
Oui, c'est sûr que là, pour la première fois, il était à une place différente. Ouais. Et c'est toujours particulier, je trouve, en tant que comédienne, de faire un premier film, parce qu'on assiste vraiment à quelqu'un qui se cherche, qui se trompe parfois, qui même d'ailleurs l'est confirmé, mais on voit quelqu'un émerger. Et donc, moi, je pars toujours du principe que ça demande une disponibilité en plus et une tolérance en plus.
Alors, pour le coup, c'est pas son premier film. Vous avez tourné Woody Allen. Le titre annoncé, c'est WASP 22. WASP, c'est un acronyme. Hein. Cherchez pas, ça veut dire Woody Allen Secret Project. Donc, c'est secret, ce projet. Vous n'allez pas raconter le film. Vous pouvez dire qui est votre personnage.
Oui, surtout, je n'ai pas le droit de raconter le film.
Vous n'avez pas le droit. Comment c'est de tourner Woody Allen? On dit qu'il parle très, très peu aux comédiens, comédiennes sur le plateau.
Alors, moi, on m'avait dit des choses, mais c'est comme tous les « on dit ». Une fois qu'on est dans le réel et qu'on vit les choses, eh ben, moi, ce n'est pas du tout ce que j'ai vécu. C'est-à-dire qu'il donne des indications, il est présent, il est très élégant, il sait très bien où il veut aller. Et c'est une recherche qu'on fait ensemble.
Gros casting, Lou Delage, Valérie Lemercier, Melville Poupeau, Niels Schneider, c'est un film en français?
Oui, tout en français.
Vous avez tout tourné en français?
Oui.
Et lui-même parle français ou est-ce qu'il donne les indications en anglais?
Non, il y a quelqu'un qui traduit.
Il parle en anglais, mais vous tournez en français. Comment s'est passée la rencontre? Vous avez fait un casting? Comment on est choisi par Woody Allen?
Et non, Woody Allen, il regarde les films des acteurs et après il considère qu'il a regardé le travail des gens, donc il propose tout de suite le rôle. Ce qui est assez surprenant parce que déjà il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui regardent tous les films ou plein d'extraits de films qu'on a fait.
Donc il vous avait vu sur grand ou petit écran, il vous avait choisi et ensuite vous avez dit oui tout de suite.
J'ai lu le scénario, j'ai essayé quand même de respecter les règles de ce qui se fait.
Ouais.
Et j'ai dit oui rapidement parce qu'il écrit quand même de très beaux rôles et des très beaux rôles de femmes.
Woody Allen, il tourne en France en partie aussi parce qu'il est inquiété, sinon par la justice américaine, mais par l'opinion publique américaine. Est-ce que vous avez pris en compte cet élément quand vous avez fait le choix d'accepter ce film?
Moi, j'ai considéré qu'il a été jugé deux fois. Donc, jugé deux fois il y a 20 ans, je crois que ce n'était pas mon sujet à moi.
Le 21 novembre, c'est beaucoup plus joyeux, mais c'est à New York, aux États-Unis. Vous avez été récompensé aux International Emmy Awards pour votre performance dans Le bal des folles de Mélanie Laurent, qu'on peut voir sur Amazon Prime. Quel effet ça fait de recevoir une récompense aussi importante, lumineuse et universelle que celle-ci?
C'est très joyeux. ça fait qu'on est très heureux, surtout que c'est un film, c'était la troisième fois que je travaillais avec Mélanie Laurent, donc tout était très joyeux et ça fait plaisir d'être, de récompenser ce projet, ce film, cette collaboration.
Je suis au courant de rien d'autre, vous y étiez ou pas ?
Oui.
Vous saviez que vous alliez gagner ou pas du tout ?
Non.
Comment ça se passe ? Les gens, ils prennent l'avion parce que vous étiez en concurrence avec trois autres comédiennes de pays différents. Vous savez pas et vous...
Non, je ne savais pas du tout. Mais je trouvais ça déjà tellement amusant d'être à cette cérémonie à New York que déjà, je me disais... Rien que vivre ce moment, c'est déjà sympa. C'est déjà une parenthèse amusante.
Et alors, c'était comment ? Si on veut comparer, par exemple, au César ?
On dîne. Là-bas.
Ouais.
On dîne d'abord et après il y a la cérémonie. Et pour être très honnête, à partir du moment où j'ai gagné le prix, on est tous rentrés dans un état euphorique où après on n'arrivait plus à écouter la suite. Et on se regardait les uns les autres et en se disant « Tu arrives à écouter ce qu'ils se disent ?» On disait « Non, non, j'y arrive pas, je suis content. » Voilà, donc on est devenu un petit peu
puéril. J'adore ce que j'ai l'impression d'y être, c'est tellement bien d'être puéril. Le prochain projet, c'est quoi ?
Je ne sais pas encore.
Moi non plus. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Lou Delage. Je rappelle, Tu choisiras la vie. Ça sort aujourd'hui, mercredi. Premier film réalisé par Stéphane Fraisse. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. On sera avec le présentateur. Alors plutôt, je vais le raconter différemment. Les JT du week-end M6 ont un nouveau présentateur. Il s'appelle Dominique Tenza. Eh bien, il sera avec nous. Et puis, celui qu'on avait découvert en Hervé, c'était l'agent de star dans la série 10%, c'est Nicolas Maury. Il sort son premier album, La Porcelaine de Limoges, c'est le titre de l'album. Il y aura même un live en direct dans ce studio, juste après le flash. Je vais arriver à le dire, je suis euphorique moi aussi. Vous allez retrouver Julia Vignali et Mélanie Gomez. L'émission, c'est bien fait pour vous, le programme du jour, après que je vous ai salué.
Bonjour, bonjour Philippe.
Bonjour Philippe. Alors, vous savez, dans le studio, là, on est trois femmes,
oui.
Un homme.
Oui.
A priori, on devrait vivre, selon les chiffres, plus longtemps que vous. Mmh. Hein, c'est ce qu'on sait aujourd'hui.
Mais
les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Mais la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on vit vraiment mieux que vous, dans meilleur état, en meilleure santé. On va parler de la santé des femmes parce qu'il y a des différences. Aujourd'hui, on n'est pas soigné exactement de la même façon. On n'est pas reçu par les médecins de la même façon. Donc, on va discuter de tout ça et voir comment on peut améliorer les choses, quels sont les enjeux et comment améliorer la situation.
Et on va repenser la santé au féminin et puis aussi, on va parler de la charge mentale, qui est un peu quand même du côté des femmes le plus souvent. Vous savez, la charge mentale, vous voyez ce que c'est, Philippe ?
Et je vois exactement. Je lis des papiers là-dessus depuis 10 ou 15 ou 30 ans.
Par exemple, là, je vous parle.
Oui.
Et je pense à tout ce que je dois faire avant
ce soir.
Avant ce soir.
C'est
et
vrai.
Ça me pollue la tête.
C'est pas vrai.
Et ça me rend presque malade.
On vous écoute. Tu choisiras la vie. C'est autre chose que la charge mentale. Ça sort aujourd'hui avec Lou Delage. Merci d'avoir été avec nous. À demain, 9h, dans Culture Média. Salut.